Nos Bibles, hein, le texte de base ce matin, c'est un texte bien connu, c'est pourtant pas un mariage, vous allez me dire, mais ça ressemble. Alors, c'est Matthieu 7, versets 24 à 27. Et le thème, c'est bâtir nos vies sur les valeurs du royaume de Dieu. Bâtir nos vies sur les valeurs du royaume de Dieu. Matthieu 7, 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc juste, on remet ce texte hein, dans son contexte. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais nous sommes ici à la fin du sermon sur la montagne. Un peu comme un nouveau Moïse, hein. Jésus est monté sur une montagne et il a donné sa loi à lui. Hein, Moïse, il avait donné les 10 commandements au Sinaï et là, il est sur une montagne, Jésus. C'est un peu, c'est pas pour rien. Et il donne cette loi, cette nouvelle interprétation de la loi. Et il fait ce premier grand discours et dans l'évangile de Matthieu, on en trouve plusieurs des grands discours. Il y en a 5. Et ça, c'est le premier. Et il arrive à la fin. Donc, après tous ces discours, les béatitudes, etc., il arrive à la fin du sermon sur la montagne et il donne ce texte-là. Et ce texte-là, il va être la conclusion de tout cet ensemble. Et en fait, il va dire, voilà, si tu veux être sage, eh bien, applique ce que je viens de dire. Et ces deux chapitres, chapitre 5, 6, 7, où il parle de ces lois du royaume. Et je crois que le Seigneur voudrait vraiment qu'on s'approprie et qu'on vive et qu'on incarne les lois du royaume de Dieu. Rappelez-vous ce qui nous a été dit cette semaine de la seconde réforme, qui serait celle qui serait véhiculée par l'Église du Seigneur qui aura intégré les lois du royaume. Donc c'est vraiment important, cette conclusion qu'on va essayer de discuter un peu et qui me semble très très importante, surtout en ce temps. Donc on va prier à la fin de ce message pour ceux d'entre nous qui sont inscrits dans la liste électorale et on va prendre un temps pour eux, non pas pour prier que telle ou telle liste gagne, ce n'est pas notre propos, mais prier pour que l'amour de la ville et pour que soit vraiment pleinement dans leur cœur, que le cœur de serviteur et le discernement et la sagesse leur soient donnés, quelle que soit leur fonction plus tard. Donc, ne partez pas là, ceux qui sont inscrits dans ces listes, il y en a quand même plusieurs. Et j'aimerais, ce message, il est bien sûr pour toute l'Église, mais en particulier dans ce jour d'élection, j'aimerais l'orienter par rapport à cela. Donc, on voit que le peuple qui écoute Jésus, il va devoir choisir entre le bonheur, heureux ceux, etc., et le malheur, malheur à ceux qui. Hein, donc c'est un peu comme dans l'Ancien Testament, il y a la voie de la bénédiction et de la malédiction choisie. C'est un peu semblable tout cela. Alors le message est inattendu, les auditeurs ils attendaient autre chose, ils attendaient qu'on les sorte des envahisseurs romains, ils attendaient un autre message. Et quel est le message que nous, on attend hein? Alors, en tout cas, ils ont eu un autre message. Et le message qu'ils entendent, c'est que les fils de Dieu, que nous sommes, fils et filles, nous sommes appelés à ressembler à Jésus, qui est doux, humble de cœur, dépendant du Père, un Jésus qui pleure sur la ville. Vous voyez, ça c'est Jésus. Et nous sommes appelés à lui ressembler. Et c'est en s'engageant ainsi, en tant que fils et filles du royaume, qu'on pourrait être la lumière et la sel, le sel de la terre. Alors Jésus, il reprend cette notion. Celui qui est sage, il fait référence ici à l'appel de la sagesse qu'on trouve dans Proverbe 9. La sagesse a bâti sa maison. Vous vous rappelez ce passage? Elle a taillé cette colonne. En fait, le fait de bâtir une maison, ça demande la sagesse. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui est sage, il bâtira sa maison sur le roc. Il fait référence à cette sagesse qui, dans la Bible, veut dire non pas une connaissance sur Dieu, mais veut dire appliquer ce que Dieu nous dit et gouverner sa vie selon les principes du royaume. C'est ça la sagesse. C'est pour ça que Jésus, il dit « celui qui est sage ». Il fait référence à tout l'enseignement de l'Ancien Testament, et en particulier tous les livres sapientiaux de sagesse. Alors, on sait qu'il faut entrer, dans le royaume. Plusieurs fois, Jésus dit, voilà, si tu veux entrer dans le royaume, donc on peut être à côté, et Dieu veut qu'on rentre dedans. Alors il dit, il y a une porte étroite. Et il va dire, la religion superficielle ne suffit pas. Juste avant ce passage, il va dire, mais voilà, ceux qui auront dit Seigneur, Seigneur, ce n'est pas ceux qui rentreront. Donc ce n'est pas notre discours qui nous fait entrer dans le royaume de Dieu, mais c'est notre sagesse, c'est-à-dire la façon dont on bâtit sur le roc notre maison. Alors, pour entrer dans ce royaume, il faut connaître ces lois. Et je rappelle ce qui a été dit, cette nouvelle réforme que nous attendons, elle vient non pas seulement fondée sur Matthieu 16, 18, « Et moi je te dis que tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Mais, donc Jésus, hein, l'autorité de Christ comme fondement, ça bien sûr, mais elle est basée sur Matthieu 16, 19 aussi, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Dieu nous a donné les clés du royaume. Donc c'est tellement important de comprendre les lois du royaume, quelles sont ces clés du royaume, parce que Dieu veut faire de nous des fils et des filles du royaume. Rappelez-vous la définition, ce qui était là à la formation cette semaine, la définition du royaume, 1 Corinthiens 15, 25, « Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Nous sommes les pieds, l'église de Jésus-Christ, elle foule cette terre, nous sommes les pieds du Christ, et Dieu nous dit, voilà, tu es appelé à marcher sur tous tes ennemis, et c'est ça qui hâte le retour du Seigneur. » Donc vous voyez, quand on parle de nouvelles réformes, quand on parle d'un Dieu qui veut changer les choses, il le fera au travers d'un peuple qui connaît les lois du royaume. Il y a d'autres passages aussi dans la Bible. Hein. Rappelez-vous 1 Corinthiens 3 qui parle des fondements. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui était posé, à savoir Jésus-Christ. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître. Parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu prouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre de bâti par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc, nous sommes appelés à bâtir. J'aimerais vous rappeler le pourquoi l'Esprit de Dieu nous a été donné. Hein, souvent, nous, d'église charismatique, on se vante et on aime l'Esprit de Dieu, c'est clair. On ne va pas dire que les autres, ils ne l'ont pas, tout chrétien, l'Esprit de Dieu. Mais souvent, on souligne ça. Mais pourquoi il nous a été donné l'Esprit de Dieu? Il nous a été donné, Ésaïe 61,4, hein, pour que tu libères les captifs, tu annonces une année de grâce, tout ça c'est bien. Ouvrez les yeux des aveugles, c'est l'essentiel de l'évangile. Mais on oublie le verset 4. L'Esprit de Dieu t'a été donné pour rebâtir sur d'anciennes ruines, pour relever d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées. Ils renouvelleront des villes ravagées. L'Esprit du Seigneur nous a été donné pour renouveler des villes. Et dans cette période d'élection où plusieurs d'entre nous s'engagent dans ce processus, c'est des gens qui sont appelés à être aux portes de la ville en tant qu'église, les anciens, les intercesseurs, tout ça sont appelés à être aux portes de cette ville parce que nous sommes appelés à les renouveler selon la parole de Dieu, ces villes qui sont dévastées depuis longtemps. Et le Seigneur nous dit dans Ésaïe 58, 12, « Grâce à toi, on rebâtira sur d'anciennes ruines. » Alors ça commence la ruine de ta vie. Parce que toutes nos vies étaient en ruine un jour. Et Dieu dit, voilà, je t'appelle à rebâtir cela avec moi. Mais quand on a fini avec ta vie, et ça commence par là, il est bien évident qu'il ne faut pas commencer à vouloir faire tout le reste si on n'a pas commencé par le début. Hein. On ne va pas gouverner les autres si on n'apprend pas à se gouverner soi-même. Donc il faut attendre, il faut être patient, il y a un temps pour tout. Mais Dieu dit, voilà, tu vas rebâtir sur d'anciennes ruines, tu relèveras les fondations des générations passées. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure le sentier, qui rend le pays habitable. Alors, nous voulons bâtir nos vies sur le roc. Nous voulons un fondement qui soit... C'est Jésus le fondement. Mais Jésus, c'est aussi, ça nous parle aussi de valeurs. Des valeurs et des principes de la parole de Dieu. Des valeurs que Jésus lui-même nous a transmises. Des lois du royaume. Comment bâtir avec ces valeurs? Alors, Dieu nous dit, voilà, une valeur, si vous cherchez une concordance dans la Bible, vous ne trouverez pas le mot valeur. Dites-moi alors, mais où est-ce que c'est? Ben, la Bible, elle en est remplie des valeurs. Et on va le voir un petit peu, on va donner quelques exemples. Mais Dieu nous dit, la valeur, c'est ce qui est précieux pour lui. Et ça doit être précieux pour nous. Et donc une valeur, c'est comme le marchand riche. Il trouve une perle, il vend tout ce qu'il a, il achète le champ, où est la perle? Donc il fait un sacrifice. Et quand il y a quelque chose qui a vraiment de la valeur pour toi, tu vas être prêt à faire des sacrifices. Si ton enfant a de la valeur, tu es prêt à faire des sacrifices pour ton enfant. En fait, une valeur, c'est ce pourquoi tu es prêt à faire des sacrifices. Là où tu n'es pas prêt à faire de sacrifices, tu n'as pas de valeur. Il y en a qui disent « ma valeur, c'est l'évangile, c'est le royaume, tout ça ». Tu la mesures comment, cette valeur? Tu la mesures avec le temps que tu passes, avec l'argent que tu mets, avec les priorités que tu as. C'est ça qui va déterminer ton système de valeurs. Donc Jésus dit, tu dois bâtir ta vie sur les valeurs de mon royaume. Alors, une valeur, c'est un principe biblique. Une valeur, c'est un principe biblique. Un principe biblique pour lequel on fait l'effort d'une mise en pratique. Alors attention, une valeur, c'est pas ce que tu ne mets pas en pratique. Ça s'appelle du bidon. C'est du bidon, ça. C'est du vent, c'est du pipeau. Hein. C'est pas une valeur. Peut-être tu crois que tu la chéris, cette valeur. Excuse-moi, ce n'est pas une valeur tant qu'il n'y a pas les efforts pour incarner cette valeur. Une valeur, c'est ce qui a de la valeur pour toi. Oui, d'accord. C'est pas seulement dans les idées, mais ça a de la valeur pour toi. Et donc, tu vas chercher une mise en pratique. Donc, ça demande de l'effort. Ça demande la mise en pratique. Et ça passe par une réflexion, une interprétation. Ce que Dieu me dit dans ce principe-là, comment je peux l'appliquer dans ma vie? Ça demande à réfléchir. Ça ne se fait pas comme ça. Parce que notre vie, elle est faite de tas de domaines. Et les principes bibliques de Dieu, c'est pas tout de suite comme ça, ça vient tout de suite. Non, ça demande de réfléchir. Ça demande de dire, mais comment je peux appliquer cette valeur là où je suis? Ça demande un effort de réflexion. On ne peut pas appliquer tous les principes de la parole comme ça directement sans réflexion. Vous voyez? Donc ça, c'est très important. Donc je rappelle, une valeur, c'est un principe biblique pour lequel on fait l'effort d'une mise en pratique et qui passe par une réflexion, une interprétation de ce principe, une application de ce principe dans ma vie. Alors ce travail de recherche, si nous le faisons tous, dans tous les domaines de notre vie, et aussi dans le domaine politique, et aussi dans le domaine éducatif, nous allons avoir des convictions profondes et stables. Et ces convictions-là, ces valeurs-là, dans les fondements de nos vies, elles vont conduire des comportements et des actions qui vont différer, qui vont être le sel et la lumière. Parce qu'elles vont être enracinées dans un fondement qui est différent, qui est rempli d'autres valeurs, des valeurs qui viennent du royaume de Dieu. Et non pas de ce monde. Donc voyez, je vous invite à, dans ces temps-là, à réfléchir aussi à ces valeurs de l'évangile que Dieu nous propose et se dire, mais comment je peux les mettre en pratique? Comment je peux assurer une cohérence entre ces valeurs de la Bible et ma pratique de tous les jours et mon comportement? Voilà, ça c'est important. Alors, voyez, une valeur, ça va demander un certain sacrifice. Dans Luc 13, il y a une petite parabole. Il dit, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il est venu pour chercher le fruit, il n'a pas trouvé de fruit. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Alors peut-être ça peut être des gens d'entre nous. Alors ce figuier-là, je cherche à avoir du fruit, il n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Mais le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu couperas. Eh bien, je peux vous dire que creuser autour de l'arbre que nous sommes, de la maison que nous sommes, y mettre du fumier dans les fondements de nos vies, ça veut dire réfléchir à ces valeurs du royaume de Dieu. Ça, c'est le fumier. C'est les lois de l'évangile. Ça, c'est le fumier pour nos vies. Et pour la terre de nos vies, on met ce fumier-là, et ça va prendre le temps que ça prendra, mais c'est à nous, il y a ce travail de laisser ce fumier, de laisser ces lois du royaume être nous imbiber dans notre vie, afin qu'elles soient bâties sur quelque chose de différent. Nous vivons aujourd'hui dans des temps bien sûr, de crise. Et le Seigneur, il cherche des hommes et des femmes qui ne soient pas pressés comme ce propriétaire-là, qui dit « je veux tout de suite du fruit, sinon il faut couper ». Non, mais qui soient comme ce vigneron, qui prend le temps pour alimenter, nourrir sa vigne. Et là, nous avons notre part pour nourrir cette maison, bâtir cette maison avec ce qui est de l'or. Nous sommes dans un temps de crise où les gens ne croient pas qu'il y a des valeurs. Ils ne croient plus qu'il y a des valeurs absolues. C'est à chacun de dire ses valeurs, petit v. Nous sommes dans ce qu'on appelle le relativisme absolu. À chacun ses valeurs. Donc chaque courant politique, chaque courant tout ça, forge ses propres valeurs. Mais nous, enfants du royaume, les valeurs que nous avons sont les valeurs que Jésus nous a données. Et c'est celles qu'on veut vivre. Et c'est celles qu'on veut véhiculer et incarner dans nos vies. C'est ça qui fera de nous le sel. J'aimerais dire, il y a eu un rassemblement il y a quelques années de dirigeants chrétiens. 2500 chefs d'entreprise chrétiens se sont réunis. Et ils ont dit, et c'était un thème qui s'appelait, une convention qui s'appelait « Diriger avec des valeurs ». Écoutez-moi ça. Au niveau des statistiques, 80% des dirigeants politiques ou économiques européens ne font que poursuivre leurs intérêts personnels dans le monde des entreprises. Ça, c'est le congrès de Davos qui a eu lieu à Davos. 80% ne font que suivre leurs intérêts personnels dans le monde des entreprises. La cupidité, le manque de valeur, les corruptions, les scandales financiers, tout ça, ça a fait que les gens aujourd'hui, le peuple français en particulier, on est devenu assez cynique et on n'y croit plus trop. Et ça, c'est le signe vraiment qu'il y a une dépernition de valeur. Les dirigeants dans le monde économique, politique, éducatif, qui assumeront toutes leurs responsabilités devant Dieu, eh bien, et devant le peuple, auront un grand impact dans les années qui viennent. Et ça sera un espoir pour notre nation. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont vivre les valeurs du royaume dans la société, pas seulement dans l'église et dans la famille, mais qui vont dans la société. Il y a un travail pour tirer tous les principes de l'évangile et voir comment ils peuvent s'appliquer dans tous les domaines de notre vie. Nous l'avons fait depuis des années pour le domaine éducatif et maintenant Dieu demande à plusieurs d'entre nous de le faire pour le niveau politique et pour le faire à tous les niveaux, dans ta famille, partout où tu vas, dans tes loisirs. Quelles sont les valeurs des lois que Dieu m'a données pour que je puisse les appliquer et manifester ainsi une véritable lumière. Je pense que s'il y a si peu de lumière et si peu de sel, c'est parce qu'on n'applique pas ces lois du royaume et qu'on n'a parfois pas pris le temps de réfléchir à comment je peux les appliquer. Ça veut dire quoi être un chrétien en politique? Ça veut dire quoi être un chrétien en éducation? C'est ça que c'est. Alors, on trouve beaucoup des chrétiens et des politiciens qui sont chrétiens. Mais être un politicien chrétien, ça veut dire quoi? Des éducateurs qui sont éducateurs d'un côté, chrétiens de l'autre, mais ça veut dire quoi être un éducateur chrétien? Des gens qui sont papas d'un côté, chrétiens de l'autre, mais ça veut dire quoi être un papa chrétien? Etc, etc. Et nous devons absolument nous arrêter et nous dire, Seigneur, je veux être dirigé avec les valeurs que tu m'as données, en particulier dans ce sermon sur la montagne. Et donc ce divorce entre les dirigeants et les hommes que nous sommes, les citoyens que nous sommes, il y a un divorce qui est là. Et ce divorce, Dieu voudrait que des hommes et des femmes du milieu de nous amènent une réconciliation par leur vie, par leur témoignage, par leur amour pour la ville. Jésus a pleuré sur sa ville. Et vous savez, c'est ça qui va réconcilier les gens avec une politique qui sera un véritable service pour la ville et pour la nation. Donc voyez, il y a beaucoup, on retrouve dans le monde beaucoup d'organismes, il n'y a jamais eu autant d'organismes qui accompagnent aujourd'hui les dirigeants pour qu'ils dirigent avec une éthique. C'est nouveau ça, il y a 10 ans en arrière, il n'y avait pas tout ça. C'est nouveau aussi ce qu'on appelle le commerce équitable. C'est nouveau ça. Mais ça, c'est des initiatives qui recherchent des valeurs, voyez. Et nous, chrétiens, on a des choses à faire dans ce domaine-là. Pourquoi on laisse toujours les autres tout faire? Dieu veut qu'on bâtisse notre maison. Mais notre maison, ça commence, c'est notre vie. Mais notre grande maison, c'est notre pays. C'est la grande maison sur laquelle on veut bâtir aussi. On veut être des bâtisseurs dans cette grande maison qu'est notre ville, qu'est notre région. Alors, redécouvrons. Il nous faut redécouvrir et valoriser les fondements bibliques, les principes bibliques. Alors, cette recherche des valeurs dans la société, ben, c'est un point, c'est une façon de prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile, c'est pas seulement croire au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Prêcher l'évangile, c'est amener les valeurs du royaume dans toute la société. C'est ça. C'est amener des idées nouvelles là où il n'y en a plus. C'était un grand homme de Dieu qui s'appelait Francis Schaeffer qui disait « Prêcher l'évangile, c'est amener des idées dans ce monde, là où toutes les idées sont tordues. Amener des idées nouvelles au niveau création d'entreprise, au niveau gestion d'une ville. C'est ça, prêcher l'évangile. On a réduit la prédication de l'évangile à la prédication du salut individuel. Bien sûr que ça commence par là, mais Dieu, il aime le monde. » Il aime tellement le monde. Et le monde, c'est le cosmos, c'est la société tout entière, c'est les villes, c'est les villages, c'est la culture, c'est tout ça. Et Dieu dit, je suis mort pour ça. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, voyons là où Dieu nous place et vraiment prenons au sérieux les lois du royaume. Je t'ai donné les clés du royaume, a dit Jésus. Mais on ne peut pas utiliser les clés du royaume si on ne connaît pas les lois du royaume. On va en parler tout à l'heure un petit peu. Alors, à nous de relier ces valeurs avec la personne qui porte ces valeurs, c'est Jésus. Un jour, il y a le président de la Fédération protestante qui va voir le président de la République et qui lui dit, mais vous ne trouvez pas que c'est un peu bizarre que toutes nos valeurs républicaines, de la tolérance, de la liberté, de la fraternité, de l'égalité, sont si peu autoporteuses dans notre pays? Comment ça se fait qu'elles sont si peu vécues? Vous n'êtes pas posé la question? Et la réponse, c'est ça. Si on véhicule des valeurs sans être en relation avec celui qui est la source de toutes les valeurs, alors il n'y a plus de dynamique, il n'y a plus de vie. C'est des choses qui sont mortes. Et en tant qu'Église et en tant qu'enfant de Dieu, nous ne sommes pas appelés à remettre des valeurs dans la société, à défendre des valeurs. Ce n'est pas ça vraiment. Nous sommes appelés à véhiculer des valeurs qui viennent du cœur de Dieu, avec son cœur, selon son cœur, des valeurs vivantes, pas des valeurs mortes. Les valeurs mortes, ça tue une société. On n'est pas là pour juger une société. Avec